bonne histoire.
Fini encore avec le roi Arthur. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ce sont les légendes et les contes du roi Arthur, des chevaliers de la Table Ronde qui continuent cette semaine avec moi, Doé. Bonjour. Aujourd'hui, bien, c'est Morgane, la chambre aux images. Ah oui, connaissez-vous cet épisode? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ce sera fait dans quelques minutes. Alors le monde était vaste et la perfidie pouvait l'être tout autant. Ainsi Morgane, la sœur d'Arthur, nourrissait contre ce dernier une haine farouche. Elle n'avait jamais accepté que cet enfant, son cadet, élevé par un chevalier rustre, devienne le nouveau roi de Bretagne. Elle désirait sa perte et était résolue pour parvenir à ses fins au pire vilainie. Pour autant, la mensonge et la fourberie étant ses principales armes, elle se gardait de montrer son ressentiment. Au contraire, elle tenait depuis des années le rôle de la sœur aimante dans l'attente du jour où elle pourrait exercer sa vengeance. Elle fut la première et sans doute la seule à remarquer ce qui se jouait entre la reine Guenièvre et le seigneur Lancelot. Tous deux étaient épris, mais par fidélité à Arthur, refusaient de vivre leur passion. Ils ne s'en étaient même jamais ouverts l'un à l'autre. La terrible Morgane comprit tout le parti à tirer de cet amour interdit et commença de mettre en œuvre un plan diabolique. Lancelot, malgré ses glorieux exploits, se révélait l'homme le plus malheureux de Bretagne. Ses sentiments pour la reine l'affligeaient d'un tourment permanent et il préférait se détourner de Camelot pour éviter la vision de son pâle et doux visage. Demeurer près de Guenièvre le meurtrissait plus encore que d'en être éloigné. Alors qu'une nuit, l'orage s'annonçait, il trouva refuge au manoir de Morgane. Elle se montra une hôtesse accueillante et l'invita à séjourner chez elle aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Elle entreprit de devenir une amie complice pour le chevalier et chaque jour, par une habile conversation, elle le poussait aux confidences. Lancelot ne se méfia pas et ce fut un soulagement pour lui de révéler son amour impossible. Il se garda pourtant de divulguer l'identité de la femme chère à son cœur. Morgane n'en avait que faire, elle la connaissait déjà. Non, son objectif était tout autre. « Seigneur, écoutez mes conseils. Je sais que vous maniez les pinceaux avec autant de dextérité que vous maniez l'épée. Vous devriez peindre celle qui vous hante afin de libérer votre tête de son image. » Voilà pourquoi Lancelot entreprit de réaliser le portrait de Guenièvre. Puis, il constata se sentir mieux et enchaîna sur une représentation de la reine en pied. Pendant plusieurs jours, une véritable frénésie le prit. Il ne cessa de dessiner sa belle à cheval, en robe d'apparat, en promenade, au bain. Peu à peu, il imagina les situations les plus audacieuses et exprima sur la toile ses désirs les plus intimes. Son cœur s'en trouva soulagé et il en remercia Morgane. Elle promit de détruire ses œuvres afin que nul ne les découvre, ce qu'elle se garda bien de faire, comme on l'imagine. La traîtresse se rendit ensuite à Camelot, où depuis toujours elle feignait une amicale tendresse pour la reine. Elle profita d'une promenade en sa compagnie pour lui parler comme le ferait la meilleure des amies. « Guenièvre, je vous sais malheureuse, vos sourires factices trompent vos proches jusqu'à votre mari, mais moi qui vous connais bien, je vois que vous souffrez. Ne niez pas, j'ai deviné la nature de votre mal, vous en aimez un autre. » Les traits de la reine se figèrent douloureusement, jamais elle n'avait révélé à quiconque ses sentiments pour Lancelot. Si Arthur l'apprenait, elle était perdue. « Ne craignez rien, je ne blâme pas une inclinaison si pure. Inutile de me donner le nom de l'élu, gardez votre secret, je puis vous aider. Faites-moi savoir si votre dessein est d'éloigner mon frère de Camelot. Il me suffira de l'inviter à mon manoir pour que vous ayez le loisir de rencontrer votre bel amour. » Guenièvre n'avait jamais réellement envisagé de vivre sa passion avec Lancelot. Mais à présent que Morgane en avait formulé l'idée, cette pensée venait se ficher comme une flèche enflammée dans sa détermination à demeurer fidèle à son époux. Rapidement, le désir embrasa sa volonté jusqu'à consumer toute prudence et elle accepta la proposition de celle qu'elle pensait son amie. Morgan invita donc son frère à lui rendre visite. Ce dernier aimait se reposer en son manoir car il pouvait alors profiter de la compagnie de Mordred, son neveu. Comme il n'avait pas de descendance, Arthur considérait ce garçon à présent presque un homme comme son fils. Sa sœur, en bonne intrigante, avait veillé à ce qu'il en soit ainsi. Pourtant, en secret, elle avait élevé l'enfant dans la haine de son oncle, lui promettant qu'un jour le trône de celui qu'elle surnommait pour elle-même l'usurpateur serait sien. La soirée était joyeuse, Morgan prenait soin, avec la complicité de Mordred, de faire boire et rire Arthur. Avec le voyage éreintant depuis Camelot et la bonne chère, le monarque ne tarda pas à tomber de fatigue. Par conséquent, quand il se coucha à la lueur d'une simple chandelle dans la chambre même où avait séjourné Lancelot, il ne remarqua pas les dessins au mur. Il n'en fut pas de même à son réveil. Il découvrit d'abord le portrait de Guenièvre, fort réussi et tout à fait fidèle à retranscrire son charme. Son regard tomba ensuite sur une belle représentation de la reine chevauchant sous le couvert des arbres et il apprécia l'inspiration de l'artiste. Enfin, il s'arrêta sur une leste image qui le frappa durement. Le sujet du tableau était toujours le même, mais un homme accompagnait cette fois la femme. Il en reconnut les traits avec effroi. Lancelot, son meilleur chevalier, son vassal et son ami. « Je ne savais comment avouer cette traîtrise !» déclara Morgan que, dans sa stupeur, Arthur n'avait pas entendu entrer. « L'attitude de ton épouse me déçoit et ton chagrin me peine. » La colère enflamma le visage du roi. Il ferait payer cette infamie à Guenièvre comme à Lancelot. Furieux, il quitta la chambre aux images pour aussitôt préparer son retour à Camelot. En l'absence de son époux, Guenièvre s'était rendu auprès de Lancelot au château de la Joyeuse Garde où il demeurait le plus souvent. Ils ne s'étaient jamais avoué leurs sentiments et il leur était difficile de même se tenir proches l'un de l'autre sans que la gêne les étreigne. Cette fois pourtant, Guenièvre avait le désir de clarifier les choses et de se déclarer. Lancelot se détourna d'elle, la regardait était un supplice, il voulait s'éloigner, elle s'avança, il voulut ne point entendre mais elle murmura « Beau seigneur, je vous aime et je le sais, vous m'aimez aussi ». « Cela ne se peut, je suis le vassal de votre époux !» trembla Lancelot en abaissant ses paupières comme il levait son bouclier pour se protéger au combat. « Vous m'avez déclaré votre dame, souvenez-vous. Ma volonté sur vous va avant celle du roi, ce sont vos propres paroles. Aussi, je vous ordonne de tourner votre visage vers moi avec une tristesse infinie mêlée d'une joie immense, le cœur chaviré des émotions les plus contradictoires. Il se résigna à faire face à sa belle, il ouvrit les yeux, elle lui sourit, rien ne pouvait plus empêcher leur baiser. » La reine n'était plus à Camelot et les craintes d'Arthur se trouvèrent renforcées. Morgan, qui avait tenu à l'accompagner, lui souffla qu'à n'en pas douter, les deux amants s'étaient retrouvés au château de la Joyeuse Garde. « Merci ma sœur pour votre aide et votre soutien, » dit Arthur. « À présent que mes alliés les plus fidèles se sont révélés des traîtres, je n'ai plus que vous en lui qui portez ma confiance. Restez ici et occupez-vous des affaires du royaume en mon absence. » En secret, Morgan jubila doublement. Jamais elle n'avait été aussi proche de posséder le pouvoir. Voir Arthur au supplice représentait pour elle un spectacle des plus réjouissants. Seul le roi bafoué entreprit le voyage jusque sur les terres de Lancelot. Seul il découvrait les amants endormis sur le lit d'herbe du jardin. Seul il pleura son chagrin et sa déception. Depuis son enfance, il n'avait versé de larmes. Oh, cruelle vision que celle de ces deux corps enlacés. Comme leur visage assoupi respirait le bonheur. Jamais il n'avait lu sur les traits de son ami et de son épouse une telle béatitude. Son malheur était d'être trahi, mais le constat de cette félicité amoureuse qui lui restait inconnue ajoutait à sa douleur. Quand le couple s'éveilla, Arthur se tenait proche d'eux, Excalibur à la main. Guenièvre se blottit dans les bras de Lancelot. Ainsi nu et désarmé, il n'avait aucune chance. Il redoutait le courroux du mari trompé, la lame vengeresse qui pourrait s'abattre sur eux. Mais un monarque ne saurait commettre un assassinat. Il se contenta de les toiser avec gravité avant de s'adresser à eux. « Femme, je te répudie, tu n'es plus mon épouse. Homme, je te renie, tu n'es plus mon vassal. Pour ta félonie, je te déclare la guerre, je reviendrai ici peu avec mon armée. Prépare-toi à un siège. » Guenièvre et Lancelot s'étreignirent alors que le roi se retirait. L'un comme l'autre se désolait d'avoir ainsi affligé un mari et un ami. Leur intention n'était pas de faire souffrir Arthur, des années durant ils l'avaient épargné. Mais comment auraient-ils pu supporter plus longtemps de ne pas vivre pleinement leur amour ? La délectation de Morgane culmina. Depuis la plus haute tour de Camelot, elle vit revenir son usurpateur de frère. Ses épaules voûtées et sa triste mine prouvaient assez que son plan avait fonctionné à la perfection. Elle se doutait qu'Arthur n'avait pu exercer sa vengeance dans le sang. En bon suzerain, il ne pouvait abattre de sa main ni le chevalier ni la reine. En conséquence, restait la guerre. Ses desseins s'accomplissaient, son piège se refermait. Elle se composait avec difficulté un air de circonstance. Sa bouche ne demandait qu'à sourire de joie, mais elle devait se montrer affligée devant son frère. Par ses habiles paroles, elle le conforta d'abord dans sa décision d'attaquer Lancelot. Ensuite, comme le trône ne pouvait rester vacant, elle parvint à le convaincre de donner le titre de régent à son fils Mordred. « Mais il n'est encore qu'un jeune homme, qu'entend-il aux choses du pouvoir? Je demeurerai là pour veiller sur ses actes et le conseiller », le rassura Morgane. « Mes meilleurs chevaliers, Galahad, Perceval et les autres sont loin, en quête du Graal. Je n'ai personne à qui confier cette responsabilité. Ton neveu ne saurait te trahir. Il t'aime comme un père. Pars combattre ton ennemi sans avoir à te soucier des affaires courantes. » Ainsi Arthur accepta et scella son destin. Il leva son armée et s'en alla assiéger son ancien ami, laissant Mordred et sa mère en charge du royaume de Bretagne. En quittant Camelot, il pensait à ses pleurs lors de la découverte des amants endormis. Puissent-ils être les derniers ? Pour malheur, le pauvre monarque se trompait. Encore une fois, avant la fin, il aurait à verser de douloureuses larmes. Aujourd'hui, je vous ai raconté Morgane, la chambre aux images. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire, toujours autour du roi Arthur, des contes et légendes. Si riche, allez, ciao, bye bye, c'était Doué qui vous racontait toujours et encore des histoires.